Aujourd'hui pour votre émission Popcorn, c'est une émission un petit peu particulière, car en effet vous n'aurez pas quatre sujets, mais un seul, qui sera une interview réalisée par Ilan. Bonjour Ilan.
Bonjour.
Et cette interview, elle rentre en compte justement, on est en compagnie, notre invité c'est Michel Péan. Bonjour.
Bonjour.
Alors du coup, donc Michel Péan, vous êtes correspondant de presse pour Le Maine Libre, et je vais laisser la parole à notre jeune radioteur Ilan, qui va justement vous poser des questions sur votre profession. Vas-y Ilan, je te laisse la main.
Alors, pour savoir, c'est quoi correspondant de presse, un correspondant de presse?
Eh bien, c'est une profession libérale, d'ailleurs. Il n'y a pas de... Je veux dire, à la différence du journaliste, le journaliste est salarié par l'organe de presse, et le correspondant est un lien plus indépendant, c'est-à-dire qu'il collabore pour le Maine Libre, selon ses propres critères. Donc, il a son matériel, son appareil photo, et il est plus indépendant. Ses horaires aussi, mais il a quand même le souci de l'efficacité et de rendre compte de l'actualité locale le mieux possible. On trouve les journalistes plutôt dans les grosses agglomérations. Souvent, ils sont organisés dans une rédaction, donc sous les directives d'un rédacteur en chef. Le correspondant de presse est beaucoup plus solo, souvent en territoire rural, comme c'est mon cas. En ce qui me concerne, je m'occupe d'un périmètre de communes, donc Maillé, Pont-Valin, Marigné-Layé, et je suis les conseils municipaux de Château-du-Loir et des communautés de communes Loire, Lucé, Bercé et Sud-Sarthe. Voilà.
Comment on devient correspondant de presse?
Eh bien, on pose sa candidature très simplement et pense que on propose des articles et c'est le journal qui dit si c'est OK, c'est stop ou encore, quoi, un petit peu. Et voilà, s'il n'y a pas de sélection très, très organisée, disons.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça?
Moi, je travaillais dans une DDE. J'ai été chargé de communication assez longtemps. J'ai fait plusieurs, au sein des directions départementales de l'équipement de l'époque, ça n'existe plus, hein. Ça s'appelle DDT maintenant. Il y avait un grand panel d'activités. Et il fut un moment, donc j'ai travaillé dans la communication, donc je faisais un journal interne et j'ai fait des stages. Donc, et ça m'a trouvé, j'ai trouvé très intéressant ce travail, parmi d'autres à l'époque. Et donc, j'ai fait en parallèle cette activité. On ne peut pas parler de métier, parlons plutôt d'activité de correspondant de presse.
Est-ce qu'il faut des études particulières pour être correspondant de presse?
Bon, il n'y a pas besoin. Bon, il faut bien sûr parler, pratiquer le français correctement, avoir une bonne orthographe, c'est préférable. Savoir un peu de photos et puis avoir beaucoup de curiosité. Voilà. La première qualité, c'est vrai pour le journaliste aussi, c'est de s'intéresser aux gens, à la vie locale, et c'est primordial. Et puis avoir une bienveillance, parce que pour faire parler les gens, il vaut mieux savoir établir le contact. Et ça ne s'apprend pas dans les livres. Hein. Je pense que c'est inné. Bon, c'est un peu comme faire de la politique, hein, je pense. Avoir le sens du contact. On va pas loin si... On est un peu un repoussoir, quoi. Voilà. Bon, mais c'est pas très universitaire, ces qualités-là. C'est tout à fait... Il y a plein de gens qui les ont, hein. La plupart. Hein.
Depuis combien de temps vous faites ça?
Ah, ça remonte assez loin. Je suis malheureusement assez vieux. Et j'ai commencé dans l'Orne, donc à Alençon, où j'étais correspondant, donc là, sur une ville. Et je m'occupais aussi un petit peu de l'Orne, l'ensemble, puisque c'était déjà au Maine Libre à cette époque-là. Et le Maine Libre voulait s'implanter à l'époque dans l'Orne, ce qui semble plus le cas. Et donc c'était passionnant parce que avec peu de moyens, il fallait essayer de rendre compte et d'être concurrent vis-à-vis du journal Ouest-France à l'époque. Il existe toujours, mais il était très dominant donc à Alençon. Et donc c'était passionnant parce que ça faisait de l'émulation, quoi, de la du challenge. Donc et après j'ai été au Maine Libre. J'ai passé un petit moment à l'Orne Hebdo, qui est un petit hebdomadaire à Alençon. J'étais au Maine Libre, donc. Et après, comme j'ai été muté à Gap, j'ai travaillé très longtemps, plus de 10 ans, au Dauphiné libéré. Donc là, dans une ville de 40 000 habitants, où la problématique n'était pas du tout la même. Puis là, je travaillais au sein de la rédaction, donc quasiment comme un journaliste. Donc c'était très intéressant, très formateur. Il y a une vie culturelle là-bas, sportive, touristique, et des plus intéressantes.
Quel était l'article que vous avez préféré écrire?
Plusieurs, mais il y a des grands moments. Moi, c'était surtout à Gap où j'ai couvert, je sais pas, les Gapençais étaient montés en haut du pic de Charence. Ils étaient 300 pour faire les lettres Gap. Bon, effectivement, il y en avait qui avaient un maillot jaune, il y en avait qui avaient un maillot rouge et d'autres un maillot bleu. Et c'est possible de faire dessiner pour les photos par hélicoptère. Le sigle Gap, c'est plus facile à avouer que pour faire Pont-Vallin. Donc, y avait l'armée qui était là, il y avait 300 personnes pour monter à 1500 mètres d'altitude. Donc c'était la fête, puisque il y a déjà la montée avec le pique-nique. Puis après, on attend l'hélicoptère de France Télévisions qui vient pour filmer pendant 30 secondes l'image de la chaîne humaine qui forme les lettres Gap le jour d'une étape du Tour de France, le 14 juillet en plus. Donc ça, j'ai fait la une là-dessus avec le Dauphiné libéré. Donc c'est très intéressant. Il y en a eu d'autres. Il y a eu le championnat du monde de parachutisme à Gap aussi. C'était très, très. J'avais mis les Hautes-Alpes croient au ciel. Et je me rappelle toujours de cet article. Il y en a cinq ou six, voilà, qui étaient très, très, très intéressants. Et puis je couvrais aussi tous les sujets, sauf les faits divers. Donc je faisais aussi des sujets politiques, c'est arrivé. Donc là où c'est plus difficile, hein. Lorsqu'il y a des conflits, c'est. En fait, en principe, un journaliste, quand il couvre un conflit, il en prend des deux côtés, quoi. On n'est jamais objectif quand il y a des problèmes. Là, c'était un conflit sur les collèges. Plusieurs communes voulaient implanter, bien sûr, chez elles, le collège, quoi. Alors, bon, on essaye de résumer une réunion publique qui dure 2 heures en quelques lignes, c'est pas facile. Mais c'est passionnant à faire.
Comment ça se passe pour être rémunéré?
Ah ben là, c'est le journal qui décide, hein, il y a un barème. C'est pas du tout comme les gens le croient à la ligne. Une ligne ne veut pas une autre ligne. Ça ne veut rien dire. Sinon, on recopierait le bottin. Non, non, c'est à l'importance du sujet. Voilà. Donc l'importance du sujet, c'est. Bon, les conseils municipaux, par exemple, sont mieux rémunérés que les autres sujets. C'est variable. Donc, plus on a d'activité, mieux on est payé, quoi. Ben, ça permet de motiver les gens aussi, hein. Ça reste une motivation importante, l'argent, bien sûr. Pour moi, c'est pas la principale, hein. C'est la rencontre des gens. Voilà. Et puis, parfois, quand on fait des choses difficiles, ben, on est content du résultat, hein, comme dans toute activité d'ailleurs. Et puis, les gens sont extraordinaires. Vous pouvez regarder les collectionneurs, par exemple. Vous en avez qui collectionnent des capsules de bouteilles de bière. Vous en avez d'autres qui collectionnent plein de choses. Donc les centres d'intérêt des gens sont très divers. Les sports, vous en avez des centaines. Il y a des gens qui se passionnent pour des chiens de traîneau, même en plaine. Il y a des gens qui L'activité des élus aussi est intéressante, parce qu'on voit que le résultat, le grand public ne voit que le résultat. Mais observer derrière le rideau comment tout ça s'est façonné, fabriqué, quels obstacles ont été levés, quelles difficultés, etc. Très intéressant. Et essayer de rendre compte de toute cette complexité, rendre simple ce qui est complexe, c'est notre travail. Toujours être dans la simplicité. Et puis bien sûr, dans l'objectivité.
Non.
Mais ça, l'objectivité, c'est les autres qui peuvent en témoigner. On dit on est objectif, mais moi j'aime bien que les autres, ce soit les autres qui le disent. On ne peut pas le savoir par nous-mêmes. On peut mettre les conditions, donner la parole à tout le monde, par exemple, c'est une condition. Mais le résultat, toutes les déclarations ne sont pas de la même importance. Donc vous pouvez très bien donner la parole à chacun, mais si vous faites une citation sur quelque chose de subalterne pour l'un et quelque chose de fondamental pour l'autre, il y a disproportion. C'est très très difficile d'observer l'objectivité.
Alors ce serait pour savoir des conseils pour bien écrire un article.
Eh bien, pour bien écrire un article, enfin, autant que je puisse le savoir, c'est d'abord choisir un bon titre. Le titre, c'est la vitrine de l'article. Donc, c'est ce qui accroche le lecteur. Donc, il faut que le titre soit concis, pas trop long, et puis percutant. C'est-à-dire qu'il résume bien le propos et qui donne envie de lire. Ensuite, il faut faire des phrases courtes, pas trop longues, pas s'embarquer dans des phrases de 4 lignes. Le lecteur, au bout de la fin de la phrase, il ne sait plus quel est le début. Donc, il perd le sens de la compréhension du texte. Donc, des phrases courtes. Après, essayer d'avoir aussi un enchaînement dans l'article logique. On ne relate pas les choses par le début, pas forcément par le début. On peut relater l'événement par l'essentiel, par on peut commencer par la fin, par exemple, par la conclusion de l'événement. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y a un enchaînement logique, chronologique, pas forcément chronologique, mais logique, et qui ne perde pas le lecteur en route. L'objectif, c'est de garder le lecteur dans l'article, et qu'il aille au bout. Voilà, et puis une conclusion. La conclusion, souvent, renvoie au titre ou au début. Et parce que faut pas oublier que la conclusion, c'est la dernière chose lue, et c'est ce qui va souvent rester dans l'esprit du lecteur. Donc la conclusion, faut pas essayer qu'elle soit fade, essayer qu'elle soit percutante. Voilà, moi c'est un peu l'esprit de ce que je fais. J'essaye de faire, on réussit pas toujours. Puis bon, parfois on fait des articles qui sont simplement informatifs, ou nous on appelle ça institutionnel, quoi. On reprend des communiqués ou des propositions qui nous sont faites par des élus, par exemple par des collectivités. Et là, c'est difficile à rendre vivant, hein, souvent. Donc, on manie le ciseau, hein. On enlève à peu près les 2/3 du communiqué, puis on garde les idées essentielles. Parce que souvent, il y a trop de détails, quoi. C'est pas du tout la même approche, hein, les rédacteurs en collectivité, ils veulent être exhaustifs, quoi. Ils veulent parler de tout. On leur demande de parler de tout. C'est pas forcément le critère. Parler de l'essentiel, c'est déjà souvent bien.
Et ben, merci Michel.
Au revoir Ilan. J'étais très content de te rencontrer. Ce que je peux dire pour conclure, c'est que ce métier de correspondant, tout comme journaliste d'ailleurs, c'est une passion. Il y a la diversité des territoires, des personnes qu'on rencontre, des sujets, et ça reste intéressant de rendre tout ce qui est complexe, de le rendre simple. L'objectif, c'est d'intéresser les gens, et puis quand ils commencent à lire un article, c'est qu'ils aillent au bout aussi. Donc il ne faut pas être ennuyeux, il faut essayer de montrer ça simplement, et que ce soit intéressant au global, et puis... Les gens aiment bien apprendre quelque chose dans leur journal, quand même, au fond. On est là pour révéler un peu ce qui n'est pas trop connu, quoi.
Eh bien, merci beaucoup, Michel Péan, pour cette interview. Du coup, merci également à toi, Ilan, pour justement avoir posé ces questions.
De rien.
Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Popcorn. Merci.